Bon matin, Église de l'Espoir, toute une joie pour moi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous autres ce matin. Si vous n'avez pas déjà une Bible dans vos mains, je vous encourage à aller en chercher une, puis revenez devant l'écran dans Jean 12, on continue notre série. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, moi je suis particulièrement joyeux avec le beau temps qui est là à l'extérieur. Hier toute la journée en fait, on a passé la journée dehors à faire le ménage sur le terrain, à passer du temps à jouer dehors avec les enfants, puis à finir ça avec un bon barbecue. Le beau temps est sorti, ça ramène une certaine joie, mais encore on a hâte de pouvoir être face à face avec vous autres pour ouvrir la Bible ensemble, mais comme ce n'est pas encore possible, on est là ce matin. Donc prenez votre Bible, allez dans Jean, on continue notre série ce matin dans l'Évangile de Jean, et je ne sais pas ce que vous avez fait de votre samedi hier. Moi j'ai un ami qui me partageait cette semaine que lui le samedi c'est fait pour dormir. Il me partageait que lui, le samedi matin, c'est le seul temps où est-ce que dans toute sa semaine, il peut vraiment se reposer et dormir. Et il me disait qu'il y a un petit problème, par exemple, dans sa famille. Il y a un de ses fils qui, lui, est un lève-tôt. Que depuis qu'il est tout petit, il se lève toujours très, très tôt. Et il me racontait qu'à un moment donné, il a pris son fils à part. Il a dit, écoute, tu dois comprendre, mon grand, que moi, le samedi matin, c'est le seul temps où je peux vraiment dormir. C'est le seul temps où je peux vraiment me reposer, puis j'en ai besoin. Fait que si tu te lèves tôt, prends un livre, colore, lis, fais quelque chose, mais fais pas de bruit, parce que j'ai besoin de ce repos-là. Puis le samedi matin suivant, son fils, encore une fois, très tôt le matin, s'est levé. Puis là, mon ami était couché dans son lit, il dormait, puis là, il a commencé à entendre la vaisselle claquer, puis il a commencé à entendre les robinets s'ouvrir, puis il a commencé à entendre des chaudrons, puis des choses comme ça. Puis pendant qu'il était couché dans son lit, il me racontait qu'il disait, j'étais dans mon lit, puis je me disais, ah! Mon fils est tellement égoïste, là. Moi, j'ai besoin de dormir, puis lui, il est là, qui pense juste à lui, puis il fait du bruit, puis tout ça. Finalement, il s'est rendormi, le bruit a arrêté après un certain temps. Puis après un bout de temps, quand il s'est levé, sa chambre est comme au-dessus de la cuisine chez eux. Il s'est levé, puis il est descendu en bas. Puis quand il est arrivé dans la cuisine, la première chose qu'il a vue, c'est une grande banderole sur laquelle était écrit « Bonne fête des pères ». Avec la table pleine de bouffe, il avait fait un pot de framboise avec de la crème, des œufs, du café, tout ça. Puis il avait préparé un restaurant, un déjeuner-restaurant pour son père ce matin-là. Puis là, à ce moment-là, il a regardé la scène avec son petit gars qui sourit dans le coin, puis il a dit « Ah, oh, man, si seulement pendant que j'étais couché dans mon lit, j'avais su qu'est-ce qui se passait en bas, j'aurais pas réagi de la même façon. Je me serais pas dit « Ah, il est tellement égoïste. » Il n'était pas du tout égoïste, c'est le contraire. Il est en train de penser à moi. » Ce qu'on voit dans l'histoire, dans le texte d'aujourd'hui, dans Jean 12, c'est un peu une histoire semblable à ça. Mon ami m'enseignait à travers son illustration que des fois, on a cette attitude-là qui nous manque l'information de l'autre étage. Des fois, on réagit de telle manière parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment sur l'autre étage. On entend du bruit, c'est dérangeant. On n'est pas capable de faire qu'est-ce que nous, on voudrait faire. Il y a comme quelque chose qui nous dérange en ce moment. Mais si seulement on savait qu'est-ce qui se passait sur l'autre étage, peut-être que notre attitude serait différente. Et j'aimerais, nous, à travers le texte qui est devant nous aujourd'hui, à travers ce que Jésus va accomplir dans son entrée triomphale à Jérusalem, qu'on puisse voir un petit peu les histoires qui sont là comme sur deux étages. Et comment ça peut impacter notre vie, nous, aujourd'hui, lorsqu'on est dans l'incompréhension, lorsqu'on est dérangé par des choses parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe sur l'autre étage. Fait qu'ouvrez votre Bible dans Jean 12. Je vais prier, puis ensuite de ça, on va entendre la lecture du texte et entrer directement dans le message. L'idée principale du texte est très simple ce matin. Très simple. C'est que le roi Jésus accomplit son plan et nous soutient par sa parole dans notre incompréhension de celui-ci. Autrement dit, quand nous autres, on ne comprend pas ce qui se passe, il faut qu'on ait confiance dans la parole de Christ, parce que lui est en train d'accomplir son plan, même si nous, on ne le voit pas de notre perspective. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on ouvre ta parole et on te demande, Dieu, que ta parole puisse venir encourager nos cœurs, que ta parole puisse venir nous corriger, que ta parole puisse nous encourager, Seigneur, que ta parole puisse venir nous édifier, que ta parole puisse nous guider, que ta parole puisse venir nous éclairer dans nos pensées, que ta parole nous transforme, mon Dieu. Que ta parole nous saisisse. Je te prie qu'on soit émerveillé par ta parole ce matin, qu'on croit en ta parole. Et Père, je te demande qu'on puisse de tout notre cœur adorer la parole fait chair, Christ qui est mort à notre place, qui règne sur son trône en ce moment. Que tu reçoives toute la gloire dans la proclamation, dans la réception de ta parole, puis dans notre réponse à ta parole, dans tout ce qui va prendre place ce matin. Merci d'être avec nous et merci que cette parole-là soit vivante. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Jean, chapitre 12, versets 12 à 19, dans la nouvelle édition de Genève. Jean, chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse ». Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. »
Merci Julie. Donc Jean 12, les versets 12 à 19. Une histoire sur deux étages. Et on va directement avec le premier point ce matin qu'on peut tirer à travers le texte. Ici, il y a deux choses qui se passent. Il y a le peuple juif qui accueille Jésus, qui rentre à Jérusalem, qui font une grosse célébration. C'est un contexte de fête ici. Une grosse célébration pour Jésus qui vient de ressusciter Lazare et qui entre à Jérusalem. Puis eux le célèbrent pour une raison. Mais on voit en même temps dans le récit ici que Jésus lui accomplit cette chose pour une autre raison. Et on voit comment est-ce que ça peut venir créer de la confusion dans le cœur de ceux qui le voient parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que Jésus est en train d'accomplir. Notre premier point est très simple. Je dois célébrer Jésus pour les bonnes raisons. Parce que clairement, ce qui prend place ici, c'est qu'il y a un peuple qui célèbre Jésus pour les mauvaises raisons. Ici, vous devez comprendre qu'on nous dit juste au verset 12 que c'était le lendemain. Le lendemain de quoi? Si vous tournez votre page et que vous regardez au début du chapitre 12, ça dit 6 jours avant la Pâque. Donc, on est 5 jours avant la Pâque, ici. Et la Pâque était la fête qui était la plus grande fête du peuple juif. Où est-ce qu'il y avait des milliers de personnes qui se rendaient à Jérusalem, des milliers de Juifs, des villes de partout autour qui se rendaient à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Ils allaient se préparer d'avance, ils arrivaient d'avance, là, c'est 5 jours d'avance, ils se préparent d'avance, ils achètent leur animal, des fois quand ils n'en apportent pas un avec eux, ils trouvent du logement, ils font leurs choses, ils se préparent pour faire la fête. Josephus, qui est un historien des premiers siècles, nous dit qu'il nous raconte une des fêtes de Pâques qui avait lieu à Jérusalem dans le temps, et il estime le nombre de personnes à 2 700 000. Eddie Carson va nous dire, bon, peut-être que c'est un petit peu exagéré, mais il y avait beaucoup de monde. Il faut comprendre que la ville était pleine, c'était bondé. Et ici, les gens se préparent à fêter la Pâque. Il y a quelque chose de particulier. Parce qu'en même temps, on est comme à une division dans le livre de l'Évangile de Jean. Où est-ce qu'on sort du livre des miracles? C'est le dernier miracle qui vient de prendre place au chapitre 11. Lazare a été ressuscité. On a fait une fête pour Jésus. Et là, le ministère de Jésus, la popularité de Jésus est vraiment à son apogée ici. Jésus est le plus populaire qu'il a jamais été. On voit dans les versets 17 et 18 que tous ceux qui avaient entendu parler de la résurrection de Lazare en rendaient témoignage. Fait que le mot se répand. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas un homme ordinaire. Il y a un homme qui a fait toutes sortes de miracles. Un homme qui, quand il enseigne, imaginez-vous être les disciples, être un de ses disciples qui a marché avec lui pendant 3 ans, qui l'a vu enseigner les plus grands cerveaux de son époque, les pharisiens qui avaient étudié dans la loi hébraïque et dans les Écritures de l'époque, étaient confus quand Jésus parlait avec eux parce que sa sagesse les dépassait complètement. Jésus qui faisait des miracles, qui guérissait les malades, qui pouvait calmer une tempête, qui marchait sur l'eau, Jésus qui multiplie des pains. Il a fait des choses extraordinaires. Mais ici, quand Jésus a ressuscité un mort, je ne sais pas quel âge vous avez en ce moment, vous qui me regardez. Moi, je suis un peu en dessous de la quarantaine. Et dans toutes mes années de vie, j'ai vu à peu près le nombre de résurrections, je dirais peut-être zéro. Je ne sais pas vous autres combien vous en avez vu dans votre vie, mais imaginez la nouvelle qui se répand. Il y a un homme qui s'en vient à Jérusalem qui peut ressusciter les morts. C'est absolument incroyable. Sa réputation est au top et tout le monde veut voir Jésus. Et tout le monde ne veut pas juste voir Jésus, ils veulent aussi voir l'homme qui a été ressuscité des morts. Et c'est absolument incroyable de voir le nombre de personnes qui courent après lui, qui veulent l'entendre. Et là, le peuple juif commence à être boosté. Parce qu'eux, ils attendent un Messie. Et on le sait, il y a des prophéties messianiques qui sont données dans l'Ancien Testament. Ils entendaient l'Ancien Testament constamment. Et ils attendaient un Messie, un sauveur, un homme qui allait venir les sauver, eux, dans leur mentalité, alors qu'ils étaient là, oppressés par les Romains à l'époque, qui dominaient sur eux. Il y avait cet espoir qui était pour avoir un homme qui allait leur donner une libération militaire ou une libération politique. Et là, tu entends parler d'un homme comme Jésus, qui a une sagesse qui dépasse celle des pharisiens, qui a une puissance qui dépasse tout ce qu'on a connu. On se dit certainement, s'il y a quelqu'un qui, pour nous libérer de la domination des Romains, de l'oppression des Romains sur nous autres, c'est cet homme-là, il peut relever les morts. Il va venir et il va renverser l'autorité qui domine sur nous autres, puis enfin, on va être libre de l'oppression politique. Et c'est avec ça en tête que les Juifs accueillent Jésus à Jérusalem. Jésus arrive et le texte nous dit simplement au verset 14, « Jésus trouva un ânon. » Et là, on se dit, bon, Jésus s'en vient à Jérusalem avec ses disciples. Là, il y a un âne qui traîne là sur le bord de la route. Puis Jésus, il prend l'âne, il s'assied dessus, puis il rentre à Jérusalem. Mais on voit dans les autres évangiles, c'est un des rares événements qui sont répertoriés dans les quatre évangiles. Et dans les autres évangiles, on voit que Jésus n'a pas juste trouvé un ânon sur le bord de la route, mais il a ordonné à ses disciples, vous allez aller à tel endroit, vous allez trouver une ânesse avec son bébé qui n'a jamais été monté. Et vous allez dire au propriétaire de ces ânes-là, le maître en a besoin. Puis vous allez me les apporter, puis je vais entrer à Jérusalem avec ça. Les disciples le font. Ils apportent l'âne et Jésus arrive réellement comme un roi. Jésus accomplit une prophétie qui est donnée dans Zacharie 9. On va le lire plus tard tantôt. Mais lui est en train d'accomplir une prophétie. Jésus, depuis le début, se cache. Et si vous regardez juste à la fin du verset du chapitre 11, il nous est dit que les principaux sacrificateurs, au verset 57, et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, qu'il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Et Jésus, loin d'avoir peur et de se cacher, il rentre à Jérusalem avec des gens qui crient, qui branlent des branches de palmiers devant lui, qui était une célébration que les Juifs avaient commencé à prendre déjà depuis plusieurs siècles, quelque chose qui faisait partie de la tradition pour les autres fêtes, puis pas nécessairement pour celle de la Pâque, mais depuis la libération avec Judas Maccabée qui avait reconquéri le temple, qui avait commencé à faire ça comme un symbole national, les branches de palmiers. Et là, ils célèbrent Jésus, ils mettent leur manteau sur l'âne pour faire comme une selle improvisée. Jésus s'assit sur l'âne. Puis les gens célèbrent, puis ils disent « Hosanna ». Hosanna, qui est un mot hébreu, qui vient du psaume 118, comme Pasteur Michel nous l'a dit au début aujourd'hui. Puis qui veut dire « Seigneur, sauve ». Donc le peuple est là, et ils attendent leur Messie avec un cœur plein d'expectatives. Il va le faire, il va renverser l'autorité en place, il va nous libérer de l'oppression politique. Mais ils vont faire face à un mur, parce que dans 5 jours, celui qui croit qu'il vient les libérer de l'oppression politique, va lui-même être oppressé, puis être battu, puis être cloué sur une croix, puis mourir de manière vraiment lamentable, comme un criminel devant leurs yeux. Et la foule qui est en train de crier « Hosanna » en ce moment, qui est en train de crier « Seigneur, sauve, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », 5 jours plus tard vont crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Et la raison est simple. Jésus ne vient pas rencontrer les attentes que ce peuple-là avait. Eux s'étaient bâtis un Messie dans leur tête. Et ils se sont dit, quand le Messie va venir, il va être comme ça, puis c'est ça qu'il va faire. Et Jésus les a déçus parce qu'il n'a pas fait ce qu'eux pensaient qu'il était pour faire. Et rapidement, leur acclamation, rapidement, leur célébration s'est transformée en haine et en désir de le voir être cloué sur une croix. Jésus ne vient pas accomplir ce que la foule aimerait qu'il accomplisse. Donc, il frappe un mur. Et il célèbre, en fait, ici Jésus pour les mauvaises raisons. Il célèbre Jésus selon leurs attentes et non selon son plan. Ils veulent que Jésus accomplisse leur volonté et pas sa volonté. Autrement dit, ils veulent un Messie qui est fait à leurs mains. Le problème ici, c'est que quand tu regardes au texte, puis nous, écoute, on a la fin de l'histoire, on sait ce qui va se passer, même que Jean nous fait des commentaires ici, il nous parle de Jésus qui est glorifié au verset 16, donc on sait que Jésus va mourir et qu'il va ressusciter. On connaît la fin de l'histoire. On sait ce qui va se passer ici. Et en réalité, on sait que soit si c'est leur volonté à eux qui s'accomplit ici, et pas celle de Christ, ben, ils sont ruinés. Parce que si eux, ils réussissent à faire de Jésus le roi à Jérusalem, qui renverse l'autorité romaine, à ce moment-là, ben, ça va être leur perdition éternelle qui va avoir lieu. Mais si la volonté de Jésus se fait ici, et qui vient mourir pour leur péché au lieu de s'asseoir sur un trône maintenant, eux vont s'asseoir sur un trône plus tard pour la vie éternelle. Malgré la confusion, où est-ce qu'on aimerait tellement que notre volonté s'accomplisse? Où est-ce que le roi tout à coup nous déçoit puis on se dit, mais ce n'est pas ce que je pensais que tu allais faire. On doit s'arrêter face à un texte comme celui-là puis se dire, et moi dans ma vie personnelle? Moi dans ma vie personnelle, comment est-ce que je perçois Christ et ce qu'il a fait? Moi, dans ma vie personnelle, pourquoi je célèbre Jésus? Si on célèbre Jésus parce qu'on s'est fait dire qu'en venant à Christ, en mettant notre foi en lui, on n'allait plus jamais être malade, qu'on allait recevoir des richesses dans le monde présent, qu'on allait avoir un succès au niveau de notre réputation, au niveau du travail et tout ça, clairement, on va frapper un mur un jour ou l'autre parce que Jésus ne promet pas ces choses-là. Si on désire un Jésus qu'on s'est fait à notre main, qu'on se dit, Jésus, je te veux et je veux te célébrer, mais si tu remplis ces conditions-là, mais tu n'es plus en train d'adorer Jésus pour Jésus. Tu es en train, dans le fond, de t'adorer toi-même, en réalité. Tu veux seulement que Jésus accomplisse ta volonté. Et en réalité, comme on l'a vu, si Jésus accomplit notre volonté et pas la sienne, c'est nous qui se retrouvons perdants aussi au bout du compte. Donc, pourquoi est-ce qu'on célèbre Jésus aujourd'hui? Vous voyez, un mauvais enseignement attire des gens à devenir des faux chrétiens qui célèbrent Jésus pour de mauvaises raisons et qui, après un certain temps, vont juste quitter la foi. On se demande tellement souvent pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont là à proclamer le nom de Jésus, à le célébrer et qu'après un certain temps, ils quittent. Parce qu'à la base, ils ne célébraient pas pour les bonnes raisons. Et je veux t'inviter à considérer qui est Jésus ce matin. Ici, Jésus vient accomplir une prophétie. Ce n'est pas le roi auquel on s'attendait. Ce n'est pas le roi qui renverse les puissances de Rome, mais c'est le roi qui vient renverser l'oppression du péché et de la mort sur notre vie. Celui qui n'arrive pas sur un cheval de guerre à Jérusalem, mais qui arrive sur un âne, humblement, pour apporter la paix et pour venir mourir pour les péchés de ceux qui le célèbrent en ce moment et qui vont crier « crucifie » plus tard, qui vient payer à notre place, qui reçoit notre condamnation sur la croix. C'est le roi qui s'offre en sacrifice. Je ne sais pas si vous réalisez ici, mais les pharisiens le cherchent à la fin du chapitre 11. Ils disent, si quelqu'un le trouve, dites-nous-le, parce qu'on veut l'attraper, on veut le saisir, puis on veut le mettre à mort. Et Jésus s'offre lui-même et se présente à Jérusalem, en plein milieu de la foule comme ça. Jésus est venu s'offrir pour nous. On doit se demander, comment est-ce qu'on réagit lorsque les choses ne semblent pas aller comme nous, on pensait que ça irait si on se mettait à suivre Christ. Ah, si je me mets à suivre Jésus, il va arriver telle et telle chose dans ma vie. Jésus va faire telle et telle chose pour moi. Mais si Jésus ne fait pas ces choses-là, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on suit Jésus pour le soumettre à notre plan ou est-ce qu'on suit Jésus pour se soumettre à son plan et recevoir la récompense qui vient avec? Ça me fait beaucoup penser, je ne pouvais pas m'en empêcher pendant que je préparais le message de penser à la fondation de notre beau pays. Si vous êtes déjà allé à Ottawa et que vous avez visité le bâtiment du Parlement, en plein milieu, il y a la Tour de paix qu'on appelle. Et je vous ai mis une image à l'écran. C'est le Parlement de la capitale du Canada, Ottawa. Et ce qui est écrit juste devant le Parlement, c'est un verset biblique ici. C'est le psaume 72, verset 8, qui est cité par Zacharie dans le chapitre 9, et qui est cité ici par Jean dans notre texte, juste le verset suivant, au verset 10 de Zacharie 9. Il dit ceci, ici c'est en anglais, « He shall have dominion also from sea to sea, Dans le psaume 72:8, on nous dit que le Seigneur va dominer d'une mer à l'autre. On parle de sa suprématie sur tout le monde. Et les pères fondateurs, quand ils ont fondé notre pays, ils se sont basés sur plusieurs versets. Si vous visitez le Parlement, il y a plusieurs versets un petit peu partout dans le bâtiment, à l'intérieur et à l'extérieur. Et celui-là ici, qui est connecté presque directement avec notre texte, qui parle de la domination de Dieu. Et si vous ne le saviez pas encore, le 1er juillet avant s'appelait le Dominion Day. C'était le jour du dominion en français, on l'a piètrement traduit, mais le jour de la domination du Seigneur, on l'a changé après un certain temps pour le jour du Canada. Parce que la réalité est que quand Jésus ne fit plus, quand Jésus ne cadre plus avec notre agenda politique, on se tourne rapidement de lui puis on le met de côté. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les Juifs voulaient élever Jésus pour qu'il renverse l'autorité qui était en place. Mais lorsque Jésus ne remplit pas leur agenda politique, ils se détournent et ils crient « crucifie ». Et on doit se remettre en question. On doit se remettre en question. « Seigneur, pourquoi est-ce que je te célèbre aujourd'hui? Est-ce que je veux un Jésus qui est fait à ma main? Est-ce qu'on l'adore pour qui il est vraiment? Ou on l'adore pour ce qu'on aimerait qu'il soit pour nous? » Est-ce qu'on peut regarder à Jésus, même dans le texte qui est devant nous ce matin, et se dire, Seigneur, je ne veux pas faire comme eux qui disent, Hosanna, béni soit le roi d'Israël, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Et dès qu'il ne fait pas ce que moi j'aimerais qu'il fasse, je le rejette. Ou est-ce que je peux regarder à Jésus dans ce texte-là et dire, oui, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Et même si mon portefeuille est vide, et même si ma santé se dégénère, et même si les choses ne vont pas comme j'avais planifié qu'ils aillent, je vais continuer de te célébrer parce que tu es mon roi, tu es mon sauveur. Et tu es celui qui sait vraiment toutes les choses que moi, je ne suis pas capable de voir sur l'autre étage. Il fut un temps où dans ma propre vie, j'avais l'habitude de célébrer Dieu principalement pour les choses qu'il me donnait. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans votre vie, mais bien souvent, on va prier avant de manger, puis on va dire « Merci Seigneur pour la nourriture ». On va regarder à notre famille et dire « Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci mon Dieu pour ma voiture. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là qui nous permet d'avoir dans notre vie. » Et c'est pas mal de dire merci à Dieu. Continuez de le faire si c'est ce que vous faites. Et je continue de dire merci à Dieu à chaque jour pour un paquet de choses. Mais si c'est seulement ça qui compose nos prières, on doit se poser des questions. C'est quand la dernière fois que tu t'es approché de Dieu en disant merci Seigneur pour qui tu es? Merci mon Dieu parce que même quand mes yeux ne voient pas qu'est-ce qui se passe, je t'ai fait confiance puis je sais que tu prends soin de ma vie. Jean 17, 3, Jésus va nous expliquer ce que c'est que la vie éternelle en disant la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé Jésus-Christ. Que la vie éternelle, la vraie vie, et c'est le message de Jean, vous allez entendre ça être répété à travers toute la série, parce que c'est le message central de l'évangile de Jean. Si tu viens à lui, tu vas avoir la vie. Mais la vie ne consiste pas dans le manger ou le boire et dans toutes les choses qu'on peut posséder. La vie consiste à connaître Dieu. Est-ce que ce matin, je peux dire que je célèbre Jésus et que j'aime Jésus pour les bonnes raisons? Pas à cause de tous les bénéfices qui découlent de lui, pas à cause de toutes les choses qu'il peut me donner, mais à cause de qui il est, le roi sauveur. Ensuite, dans le texte, on voit clairement que je dois croire sa promesse dans l'incompréhension. Le verset 16 est tellement clé ici dans le texte qui est devant nous. C'est un verset que je suis tellement heureux que Jean ne fait pas juste nous écrire le déroulement de l'histoire ici, mais il vient nous donner des petits commentaires sur le déroulement. Et Jean vient nous dire au verset 16 que ses disciples n'ont pas compris ces choses-là à première vue. Quand ils ont vécu l'histoire la première fois, quand ils ont vu Jésus entrer à Jérusalem sur un âne, ils n'ont pas compris que Jésus était le roi de paix, assis sur l'animal de paix qui rentrait dans la ville de paix. Ils n'ont pas compris la première fois qu'est-ce que Jésus était en train d'accomplir, que c'était un roi humble qui venait pour mourir pour sauver son peuple. Mais Jean il nous dit ici que les disciples s'en ont rappelé. Une fois que Jésus est ressuscité, une fois que Jésus a été mis au tombeau, qui est revenu à la vie après 3 jours, qui est monté au ciel, qui a été glorifié, ici il nous dit, lorsque Jésus a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. Et c'est là le point central. Il ne se souvient pas juste que Jésus n'a pas juste accompli une chose comme ils l'ont vécu la première fois. Il n'est pas juste rentré à Jérusalem comme ça pour une fête parce que les gens avaient vraiment compris ce qu'il faisait. Mais il dit, il y a quelque chose qui avait été écrit à propos de Jésus, puis on ne l'avait pas compris la première fois. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié et que Jésus n'avait pas encore envoyé son Esprit Saint. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui. Une fois que les disciples ont eu l'Esprit qui est venu en eux, ils ont compris, ils ont saisi ces choses, l'Esprit qui venait rappeler aux disciples les choses que Jésus avait dites. Mais nous, on est dans une autre situation. Nous, en croyant en Jésus, on a l'Esprit Saint qui vit en nous, qui nous révèle la parole de Dieu. Est-ce qu'on plonge nos regards dans le texte? Le deuxième point est simple, c'est croire sa promesse dans l'incompréhension. Mais comment tu peux croire sa promesse que tu ne connais pas? Il faut qu'on plonge nos regards dans l'Écriture. Si seulement les disciples à ce moment-là et la foule avaient compris qu'est-ce que Jésus accomplissait en s'assoyant sur un âne pour rentrer à Jérusalem, si seulement il y avait eu cette mémoire-là à propos de Zacharie 9:9, il aurait vécu les choses d'une manière totalement différente. Et 5 jours plus tard, il n'aurait pas crié « crucifié », mais il aurait compris qu'est-ce que Jésus venait accomplir. Et regardons à Zacharie 9:9 qui est sur l'écran ici. Qui est la prophétie, une des prophéties les plus centrales à propos du Messie dans l'Ancien Testament. Je pense qu'il est sur l'écran, Zacharie 9:9. Non? OK, je vais le lire. Mon erreur, je dois avoir oublié de l'envoyer. Zacharie 9 au verset 9. C'est une des prophéties centrales à propos du Messie dans l'Ancien Testament qui dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. » Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Extrêmement simple. Tu lis ce texte-là dans Zacharie 9:9 et tu dis, ben oui, c'est clairement ce que Jésus a accompli ici. Sauf que la prophétie n'arrête pas là. Il y a le verset 10. Et le verset 10 dit, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre. » Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et il continue comme ça, même au verset 11, en disant, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Et il continue, mais la suite de la prophétie de Zacharie 9 est réellement sur la grande délivrance que ce roi-là va accomplir. Et le peuple avait probablement plus en tête l'aspect de délivrance et de conquérant comme ça. Mais ici, Jésus est en train d'accomplir Zacharie 9:9. Il arrive à Jérusalem de manière humble, parce que sa mission en venant sur la terre comme un homme était de mourir pour nous sauver. Les disciples, une fois qu'ils ont l'esprit, ils se rappellent de ces choses-là, puis ils peuvent célébrer et être émerveillés par ce que Jésus a accompli comme il l'a accompli. Mais nous, on a l'esprit aujourd'hui. Et nous, on a la parole entre nos mains, ce qu'eux n'avaient pas nécessairement de la même manière que nous. Mais encore une fois, je veux qu'on se pose la question. Oui, on a l'esprit, oui, on a la parole, mais est-ce qu'on en profite pleinement? Est-ce qu'on réagit avec panique lorsque les choses ne tournent pas comme on voudrait qu'elles tournent? Lorsqu'on est dans l'incompréhension du plan de Dieu dans notre vie, comment on doit agir lorsqu'on n'arrive pas à connecter les morceaux? Lorsqu'on n'arrive pas à dire ou à comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent en ce moment? Je suis convaincu que trop souvent, le fait qu'on réagisse mal, c'est parce que notre nez est un petit peu trop collé dans les circonstances qu'on vit. Parce qu'il nous manque de l'information. Parce qu'il nous manque de connaître ce qui se passe sur l'autre étage, en quelque sorte. Mais Dieu nous a laissé sa parole. Et il y a des promesses auxquelles on peut s'accrocher. On va continuer de vivre notre vie en ne comprenant pas ce qui se passe bien souvent. Bien souvent. Mais on a la parole, on a des promesses de Dieu. On a des promesses de Dieu à propos d'un paquet de choses qui nous est écrit ici. Et Dieu peut rassurer notre cœur à travers sa parole. En fait, il veut rassurer notre cœur et nous garder fermes dans toutes sortes d'épreuves et d'incompréhensions à travers sa parole. Mais est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on remplit notre vie de la parole de Dieu pour avoir toujours une promesse de Dieu avec laquelle on peut se défendre lorsqu'il y a une promesse de trouble qui se présente devant nous? Si vous connaissez la série des Chroniques de Narnia, un de mes livres préférés dans la série, c'est celui sur le cheval et son écuyer. En fait, je dis que c'est un de mes préférés, mais quand je l'ai lu la première fois, je l'ai trouvé vraiment plate. J'ai commencé à lire le livre, puis là, il se passe toutes sortes de choses. Le petit gars vit toutes sortes d'aventures, puis il y a tout le temps un lion qui le suit. Il y a tout le temps toutes sortes de choses qui se passent un peu étranges. Puis quand tu lis le livre, tu te dis, je pense que C.S. Lewis, je ne sais pas ce qu'il a pris avant d'écrire ce livre-là, mais il était un peu mêlé, parce que l'ordre de l'histoire est comme, c'est troublant. Moi, je le disais avec mes enfants, puis tout le long, je me disais, je sais pas trop quoi leur faire comprendre là-dedans. Mais la merveille avec ce livre-là, j'ai gardé la citation ici. La merveille avec ce livre-là, c'est que le livre prend tout son sens juste quand tu arrives à la fin. Le personnage principal s'appelle Shasta. Puis il y a une conversation avec Aslan. Si vous n'êtes pas familier avec les œuvres de C.S. Lewis, Aslan est un lion qui représente Christ dans ses écrits. Puis il arrive à la fin, puis il y a une discussion avec Aslan où est-ce qu'Aslan se met à lui parler, puis à lui révéler toutes les choses que lui, il ne voyait pas pendant qu'il était en train de vivre l'histoire. Puis il lui explique tout à quel point qu'il était là depuis le début, en fait, puis qu'il ne s'en rendait pas compte. Le petit garçon est malheureux, puis il commence à se plaindre en disant « Aslan », puis là, il ne sait pas encore que c'est lui qui parle. Puis il dit « Moi, je suis malheureux, j'ai vécu des choses qui sont vraiment tristes, je suis vraiment malchanceux de tout ce qui m'est arrivé. Tu ne trouves pas? » Puis Aslan va répondre « Non, je ne crois pas que tu es malchanceux. » Puis là, le petit garçon va dire « Mais vous ne pensez pas que c'était de la malchance de rencontrer autant de lions? » Aslan répond « Il n'y avait qu'un seul lion. » Qu'est-ce que vous me chantez là? Je viens de vous dire qu'il y en avait au moins deux la première nuit et il n'y en avait qu'un, mais il était rapide. Comment le savez-vous? J'étais le lion. Et comme Shastan restait bouche bée, la voix continua. J'étais le lion qui t'a forcé à rejoindre Aravis, qui est un autre personnage. J'étais le chat qui t'a rassuré au milieu des maisons des morts. J'étais le lion qui a éloigné de toi les chacals pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux effrayés l'énergie du désespoir pour le dernier kilomètre afin que vous puissiez arriver à temps auprès du roi Lune. J'étais le lion dont tu ne te souviens pas et qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant, à demi-mort, pour qu'il s'échoue sur le rivage où un homme était assis, éveillé à minuit pour t'accueillir. Et il va continuer de lui expliquer comme ça qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est merveilleux avec cette histoire-là? Et qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y a la lumière qui éclate, un peu comme les disciples, une fois que Jésus est ressuscité, qui reçoivent l'Esprit et que là, ils regardent à l'histoire de ce qu'ils ont vécu avec Jésus et qui disent « Wow, OK, vraiment, Christ était en contrôle tout le long. » Et il y avait un autre plan qui était en train de se dérouler, alors que moi, je voyais juste cette perspective-là. Et ce matin, on se pose la question, est-ce qu'on est capable de s'accrocher aux promesses de Christ et de lui faire confiance? Même quand on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, même quand l'histoire semble être toute mêlée et que les morceaux ne semblent pas fitter ensemble. Un jour, je crois qu'on va se présenter devant Dieu. Je crois qu'on va se présenter devant celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda dans la Bible. Et je crois que le lion va nous dire « J'étais le lion qui était assis sur un âne de paix pour m'offrir en sacrifice, pour te procurer la paix avec Dieu, pendant que tu m'honorais pour une délivrance superficielle, pendant que tu étais prêt à me crucifier. » Parce que je ne rencontrais pas tes attentes. J'étais le lion qui payait pour tes péchés par une intense souffrance et un châtiment que je ne méritais pas, pendant que tu criais vers moi en me reprochant de ne pas agir dans ta situation. Peut-être aujourd'hui, on peut entendre, je suis le lion qui est avec toi dans le deuil et qui console ton cœur et te donne la force de passer au travers. Je suis le lion qui a permis une brisure dans une relation et qui t'a permis de revenir à moi, ou celui-même qui t'a conduit sur un lit d'hôpital pour sauver ton âme. Tu vois, un jour, avec la vue de l'autre étage, je crois qu'on va regarder à ce qu'on a vécu et qu'on va dire « Wow! Wow! Mon Dieu est un artiste extraordinaire. » Et ce que je pensais être une messe, que je pensais être tout croche, être n'importe comment, un fouillis, c'était en fait une œuvre d'art que Dieu est en train de faire. Seigneur, donne-moi de te faire confiance dans l'incompréhension. Ouvre ta Bible, trouve la promesse de Dieu. Personnellement, en 2018, ça a été l'année qui, jusqu'à présent, a été l'année la plus dure de toute ma vie. Et Dieu m'a gardé avec cette promesse-là qui résonnait dans mon cœur encore et encore de Matthieu 28, 20, où est-ce que Jésus dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une simple promesse comme celle-là. Alors que je pensais que j'étais seul, abandonné, loin de Dieu, alors que je pensais que Dieu avait arrêté d'accomplir un plan sur ma vie et qu'il m'avait laissé me débrouiller tout seul, Dieu venait me dire « Je suis avec toi, tu n'es pas seul. » Accroche-toi aux promesses de Dieu. Frères et sœurs, accrochons-nous. C'est des promesses et des croyances comme celles-là qui font en sorte que des hommes comme Charles Spurgeon ont pu dire « J'ai appris à embrasser les vagues qui me projettent contre le rocher des anges. » C'est des promesses comme celles-là qui font en sorte qu'un homme comme Horatio Spafford, qui a perdu sa fortune dans un grand feu, sa famille dans un naufrage de bateau, et qui par la suite écrit un chant qui s'appelle « It is well with my soul. » Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas capable de réconcilier les événements. Mais Dieu est avec moi, puis ça me suffit. Je vais passer au dernier point immédiatement, peut-être l'application la plus claire et la plus directe qu'on peut faire avec le texte. Quand on parle de célébrer Jésus pour les bonnes raisons, de croire en ses promesses dans l'incompréhension, peut-être que la promesse la plus directe qu'on voit dans le texte ici, c'est la promesse de la résurrection. Et on doit vivre à la lumière de la résurrection. Ici, le contexte, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ramené Lazare d'entre les morts. Il lui a redonné la vie. C'est pour ça que les gens courent à lui et disent « On veut voir cet homme-là qui ressuscite les morts. On veut voir cet homme-là qui a été ressuscité. » Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, on regarde cette histoire-là, puis la résurrection de Lazare, était juste une préfiguration de celle de Jésus qui allait prendre place une semaine après. Jésus allait donner sa vie pour nous, mais il allait la reprendre. Quel sauveur merveilleux, il allait la reprendre, monter au ciel. La parole de Dieu nous dit que Jésus est au ciel pour nous préparer une place avec Dieu, pour nous accueillir un jour. Ce que Jésus a vécu, la Bible nous dit qu'il était le prémisse, le premier de ceux qui allaient vivre ça. Jésus est ressuscité et monté au ciel. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous prépare une place avec Dieu pour l'éternité. Et si tu mets ta foi en Christ aujourd'hui, tu es assuré que Christ te garde une place au ciel, dans la vie éternelle. Est-ce que tu vas connaître Dieu comme lui t'a connu? Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? S'il n'y a pas une promesse qui peut te réjouir, celle-là devrait être une des promesses qui te réjouit le plus. Peu importe ce qui se passe dans notre vie à ce moment-ci, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, peu importe le niveau d'incompréhension, peut-être qu'en ce moment tu souffres parce que tu as perdu un être cher, peut-être qu'en ce moment tu souffres parce que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec des gens qui sont autour de toi, tu as de la misère à arriver financièrement, peu importe les choses qui se passent dans ta vie, tu peux croire que ce n'est pas la fin de l'histoire et qu'à un moment donné tu vas être devant Dieu et qu'il va te dire « Voici de quelle manière j'étais là, voici de quelle manière je te portais. » Non seulement ça, mais lorsque tes yeux vont s'ouvrir dans la vie éternelle avec Dieu, tu vas pouvoir dire que les choses du monde actuel paraissaient bien, bien faibles et bien insignifiantes à comparer à la gloire qui nous est réservée. Donc, ne perds pas courage. Reste accroché à ton Dieu. Mets ta foi dans ses promesses. Peu importe ce qui est en train de se passer. Écoutez, bien souvent, la narrative de notre vie du point de vue humain peut sembler vraiment minable. Mais du point de vue de Dieu, Dieu est en train d'accomplir une œuvre qui est absolument magnifique. Et un jour, on va arriver au ciel et on va dire, « Wow, Seigneur, il y a bien des choses que je ne comprenais pas. Mais maintenant que je vois ce qui se passe sur l'autre étage, mon cœur se réjouit. Je peux juste dire merci. Je ne changerai rien. » Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel, merci pour ta parole. Aujourd'hui, on regarde à cette histoire du dimanche des rameaux, du dimanche qui commence la semaine sainte, qui pour nous en 2021 est dimanche prochain, où est-ce qu'on va se rappeler encore l'œuvre que tu as accomplie, Jésus, en marchant sur la terre, en venant te révéler. Ce dimanche-là, tu n'as pas cherché à cacher ton identité de Messie, mais tu l'as mis là devant tout le monde, en disant « Oui, je suis le Messie, oui, je suis le Sauveur, mais un Sauveur bien plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. » Et ce matin, je veux te prier pour des personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas réellement, qui entendent ce message-là pour la première fois et qui se disent mais moi, je ne le connais pas. J'ai l'impression que ce n'est pas vrai, cette histoire-là. Je te prie, Père, de venir convaincre les cœurs, de plonger les regards dans ta parole et d'y trouver le Sauveur Tout-Puissant. Je te prie pour mes frères et sœurs qui passent par des moments qui sont plus difficiles en ce moment, qui puissent se confier en toi, Père, qu'on puisse regarder à l'Écriture et croire ta promesse. T'es avec nous tous les jours. On sait qu'un jour, on va être ressuscité avec toi. On sait que ce n'est pas la fin, les choses qu'on vit ici-bas. Aide-nous à nous confier en toi, Seigneur, même dans les moments où ça va bien, que notre cœur, Seigneur, se confie dans tes promesses, dans ta parole, pour qu'on soit capable de tenir ferme quand les choses vont tourner au vinaigre, comme on sait qu'ils vont le faire un jour ou l'autre. Merci d'être avec nous. Merci pour ta parole. On t'aime, Seigneur, et on veut te louer. Amen.